Pour.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Vous nous interpellez sur tous les sujets qui vous ont marqué cette semaine. C'est la Libre Antenne. Vous commentez l'actualité de votre choix. 33 9 693 693 70. On va parler football. On parlera également de la situation au Tchad après la répression des manifestations à Abéché. Et aussi l'annonce hier du report du dialogue national inclusif, annoncé pendant 2 semaines. Finalement, il est repoussé de 3 mois. On parlera de la Guinée avec le Conseil national de transition. Et vous êtes nombreux. Nombreux à réagir après le coup d'État en début de semaine au Burkina Faso. Hier soir, pour la première fois depuis sa prise de pouvoir, le lieutenant-colonel Damiba s'est adressé à la nation, allocution retransmise par la radio-télévision du Burkina Faso. Évidemment, vous qui êtes sur place, vous avez suivi cette première adresse à la nation. C'est le cas de Mouamadou. Bonjour.
Bonjour Juan et bonjour à toute la communauté ici.
Dans la capitale, à Ouaga, vous avez écouté ce discours et vous l'avez trouvé très responsable, disiez-vous au Standard.
Absolument, c'est un discours qu'on attendait depuis ce renversement du régime. On attendait le discours du colonel Damiba. C'est un discours qui s'est voulu rassurant, mais également ferme, en plus d'être responsable. Je le dis d'autant plus que le colonel a lié la durée de la transition, notamment à la question sécuritaire. Je pense que c'est la question sécuritaire qui a fait partie du président Compaoré. Et le président ou le président de la junte, le colonel Damiba, a lié cette transition-là à la question sécuritaire pour dire que c'est quand toutes les conditions de sérénité, de reprise de la mainmise de l'État sur l'essentiel de notre territoire, que le pouvoir sera rendu de façon constitutionnelle.
Et donc ça signifie, excusez-moi Mouamadou, ça signifie que la transition s'annonce longue.
Non, je ne crois pas que ça soit cela.
Parce que je pense lorsque que les conditions, il a dit, et vous-même vous l'avez dit, Mouamadou, lorsque les conditions seront réunies selon les échéances que notre peuple aura souverainement définies, je m'engage à un retour à une vie constitutionnelle normale. Ces conditions réunies, pour vous, d'après votre interprétation du discours hier, c'est une fois que la sécurité aura été rétablie sur l'ensemble du territoire.
Oui,
mais ça, vous avez bien conscience, Mouamadou, que ça peut prendre des mois, voire des années.
J'en ai pleinement conscience, mais je dis qu'en la matière également, les choses peuvent aller assez rapidement. Parce que plusieurs fois, notamment sur vos zones, il a été reproché à notre armée d'être sous-équipée, que le matériel n'était pas adapté. Maintenant que l'armée a pris ses responsabilités pour conduire les affaires de l'État, nous espérons que l'armée sera réellement équipée et que les stratégies qui permettent à l'armée, cette armée-là, de reprendre l'essentiel de l'autorité sur l'ensemble du pouvoir vont se faire rapidement. Je pense que c'est pour ne pas donner de date ni de délai précis, comme ce qui a été fait au Mali, et pour ne pas qu'il y ait des sanctions sur le Burkina.
Oui, sauf qu'au Mali, excusez-moi, la durée de la transition a été décidée des semaines et des semaines après le coup d'État. Il ne s'agit pas, au lendemain d'un coup d'État, 2 jours après, dire voilà, nous rendrons le pouvoir aux civils dans 3 mois, dans 6 mois, dans 18 mois. Vous restez en ligne. Mouamadou, on a Jean-Baptiste également à Ouagadougou. Lui aussi, j'imagine, a dû suivre cette première prise de parole du lieutenant-colonel Sondaogo Damiba. Bonjour Jean-Baptiste.
Oui, bonjour.
Avez-vous écouté le nouvel homme fort du pays?
Oui, je l'ai écouté. Mais je pense que c'est un discours assez simpliste. Hein. C'est un discours assez simpliste. Il n'y a pas vraiment... il a pris des engagements durant son discours. Mais on attend de voir. En réalité, tout ce qu'il dira, on le prendra avec des pincettes. Mais c'est vraiment la réalité du terrain qui va vraiment définir l'homme que nous avons aujourd'hui à la tête du pays. Mais quoi qu'on dise, c'est quand même un ton assez martial qui a été quand même qu'on a entendu. On sent qu'il y a quand même une velléité, une tentative en tout cas de restriction des libertés individuelles et collectives.
À quel niveau, Jean-Baptiste ? À quel niveau avez-vous, à quel moment avez-vous eu l'impression que vos libertés seront réduites, restreintes ?
Parce que quand il dit, par exemple, je mets en garde, lorsque le président de la junte dit « je mets en garde
oui. »,
ça veut dire que c'est des menaces à peine voilées, quand même à une certaine classe politique. Et moi, je pense qu'effectivement, que cette classe politique-là devrait le laisser aller au bout de son aventure. Mmh. Il a pris des engagements, il a dit qu'il a pris le pouvoir en prétextant l'incapacité du président Kabore. Moi, je pense qu'il faut le laisser aller au bout de son aventure. Et au lieu de rentrer dans un schéma plus ou moins qu'on connaît ailleurs, c'est-à-dire transition, élection, etc., à laisser-le aller au bout de son aventure. Et ensuite, le peuple lui-même vivra. Il est en état de grâce. Et il va conserver cet état de grâce pour peu que la CEDEAO le laisse tranquille.
Alors justement, vous dites que pour peu que la CEDEAO le laisse tranquille, les chefs d'État de la CEDEAO doivent se réunir dans un peu plus d'une heure en visioconférence, sommet extraordinaire pour statuer sur le Burkina Faso. Incontestablement, votre pays sera suspendu des instances de l'organisation. Est-ce que vous craignez d'autres sanctions, Jean-Baptiste ?
Non, pas du tout. Moi, je pense que c'est le service minimum, comme l'a dit quelqu'un. Mmh. En réalité, ils vont condamner, on va être exclu de la CEDEAO. C'est le service minimum. Mais je pense que pour ce qui s'est passé au Mali, on a ensemble contribué à affaiblir cette CEDEAO, ce qui est d'ailleurs une erreur. On peut avoir un jour besoin d'elle. Alors, moi, je pense que la CEDEAO va juste se contenter de condamner, d'exclure le Burkina Faso, mmh. mais elle va se contenter juste d'observer pour voir comment est-ce que le peuple burkinabé va juger le lieutenant-colonel Damiba dans les mois à venir avant de pouvoir, en tout cas, ouais. mieux se prononcer en profondeur.
Mohamedou, vous êtes toujours avec nous. Vous craignez des sanctions sévères ce matin de la part des chefs d'État ouest-africains ou pas ?
Oui, mais je pense... Oui, je sens peut-être la chose venir, mais je pense pas que ce soit responsable de la part de la CEDEAO de vouloir sanctionner le Burkina. La CEDEAO a bien compris que la situation au Burkina était devenue assez délétère, que finalement l'armée a pris ses responsabilités, et je pense que les observateurs qui sont avisés et qui suivent le Burkina savaient que quelque chose allait se passer. Mais quand est-ce que cela va se passer, c'est ça qu'on ne savait pas. Donc les sanctions, il faut que la CEDEAO fasse attention pour ne pas fragiliser l'ensemble de ses États sur tous les pays sahéliens qui sont confrontés au terrorisme.
Oui.
Voilà, bah, donc qu'elle fasse attention.
Bon, elle fera certainement attention, elle tirera peut-être les leçons aussi de ce qui s'est passé avec le Mali, ces sanctions extrêmement sévères qui ont provoqué la colère de la junte, mais aussi d'une grande partie hein, de l'opinion publique malienne. On a vu ces dizaines de milliers de personnes manifester il y a 2 semaines, jour pour jour, place de l'Indépendance, pour soutenir justement la junte et dénoncer les sanctions de la CEDEAO. Mohamedou, Jean-Baptiste, c'était passionnant, merci à tous les deux. Bonne journée à Ouagadougou et du Burkina Faso, on en parlera évidemment lundi, on dressera ensemble un bilan des décisions prises par les chefs d'État ouest-africains qui se réunissent donc ce matin virtuellement. On en parlait en première partie, la composition du Conseil national de transition en Guinée. On connaît les 81 membres de cet organe législatif qui aura notamment pour mission d'élaborer le projet de constitution. Bonjour Thiernot.
Bonjour Anne Gomez, bonjour à vos millions d'auditeurs.
Et vous faites partie de ces auditeurs, merci infiniment de votre fidélité. Thiernot, vous n'êtes pas satisfait, vous, de la composition du Conseil national de transition ?
Vous savez, Anne Gomez, depuis le début de cette affaire, moi j'étais déjà pessimiste par rapport aux différentes annonces de la junte à travers son chef, le colonel Mamadi Doumbouya. Et voilà qu'aujourd'hui... la situation que nous vivons au pays est en train de me donner raison. Parce que si vous voyez la composition de la CENI, plutôt du CNT, vous comprendrez immédiatement que c'est quelque chose qui ne peut pas aller.
C'est-à-dire ?
Ça ne peut pas aller comme
que
ça.
Que reprochez-vous à cette composition ?
Non seulement le nombre de personnes qui devront composer le CNT,
81.
Le nombre est réduit.
81. Voilà, 81 personnes, ce n'est pas assez selon vous.
88, ce n'est pas assez. Non seulement, mais aussi sur l'aspect politique, sur l'aspect politico-régional. Vous avez vu au niveau de l'annonce, on dit qu'ils ont octroyé 2 places pour les 4 régions naturelles. Mmh. Et comme je le disais hier, hors l'antenne, le nombre en Guinée ici, le tout tourne presque autour de la politique et de l'ethnie. Voilà, pour moi, on aurait dû...
Donc il aurait fallu que les 4 régions soient représentées au sein du CNT.
Oui, bien sûr. C'est qu'il y a des affaires, sauf que le nombre est réduit. Ils ont annoncé 2 personnes, mais on ne voit qu'une seule personne.
Oui.
C'est exactement ce qui se passe avec les partis politiques. J'avais vu lors de lors d'une invitation à dîner par le ministre de la Gestion du Territoire, il a dit aux différentes parties politiques, aux différentes coalitions, que les plus grandes coalitions, à savoir le EPRESE en Cassiel et l'ANAD, dont le parti de Célidal et Diallo, chacun deux aura quatre. Au finish, on se retrouve avec un représentant pour l'ANAD et quatre pour EPRESE en Cassiel.
Oui,
comment
donc,
voulez-vous que ça marche comme ça?
Oui, et en même temps, beaucoup ont dit, attendez, on ne réserve que 15 sièges aux partis politiques alors que le pays en compte 200 partis politiques. C'est compliqué. Donc vous avez l'impression finalement que ce Conseil national de transition n'est pas représentatif?
Il n'est pas du tout représentatif. Surtout celui qui aujourd'hui dirige la tête, celui qui est à la tête de cette institution, Vincent Kourouma. Lui, il ne fait pas l'unanimité. Non seulement, il a ouvertement soutenu le troisième mandat, même s'il ne l'a pas fait de façon écrite.
Ah voilà, c'est ça. Et voilà, vous avez bien fait de préciser, il ne l'a pas fait de façon écrite, mais c'est vrai que il n'était pas forcément pour, enfin, il n'était pas pour un troisième mandat, pour une révision de la Constitution, mais il ne l'a pas dit formellement, il n'a pas rejoint, et certains le regrettent d'ailleurs, le Front National de Défense de la Constitution. Donc voilà, donc vous dites que ce n'est pas non plus la bonne personne pour présider cette institution. On aura, j'espère, l'occasion peut-être la semaine prochaine de donner la parole au plus grand nombre d'entre vous sur ce Conseil national de transition, très attendu, ça y est, on connaît sa composition, et je sais que plusieurs d'entre vous souhaitaient s'exprimer sur ce sujet, donc voilà, je le note et j'espère que la semaine prochaine, on en parlera longuement tous ensemble. Plusieurs d'entre vous nous ont appelés, je vous le disais en préambule, du Tchad. On va commencer d'abord avec Yves. Yves, bonjour.
Bonjour, Juan.
Vous avez appris hier, comme tout le monde, le report du dialogue national. C'est inacceptable, disiez-vous tout à l'heure au Standard.
Absolument, parce que déjà le gouvernement actuel de transition, il s'occupe de tout sauf des questions transitoires. Il dit la raison pour laquelle il reporte le dialogue, la date du dialogue, c'est qu'il dit que les politico-militaires n'auraient pas de papiers pour pouvoir voyager, de papiers administratifs pour pouvoir voyager. Ce qui est un argument fallacieux, parce que lui, quand il était Premier ministre à l'époque, en l'espace d'un mois, il passait son temps à distribuer des passeports diplomatiques à toute l'Assemblée de l'époque, et il l'a fait en moins d'un mois. Donc, cet argument, déjà, il ne tient pas debout. Deuxièmement, il confond pré-dialogue et dialogue. Le pré-dialogue, c'est juste pour avoir une idée de ce que les Tchadiens voudraient pour le devenir de leur pays. Mais on peut faire concomitamment le pré-dialogue des politico-militaires et le pré-dialogue des politiques. Ça aussi, il prend ça comme un argumentaire pour pouvoir repousser
le
dialogue.
Et l'ouverture enfin, du dialogue, oui.
Ce qui est grave, c'est que son gouvernement, s'occupant pas des problèmes de transitoire, se permet de nommer un chef de canton à Béché dont les militaires tirent sur les populations pour justement évoquer la question sécuritaire pour rester au pouvoir. En réalité, le Premier ministre...
Les manifestations d'Avéché, ce sont les habitants qui sont sortis pour dénoncer la création d'un nouveau canton et dénoncer le choix d'un... je n'ai plus le terme exact... de chef de canton, voilà. Donc création d'un nouveau canton et le choix du nouveau chef de ce canton, c'est ce qui a provoqué la colère des manifestants qui sont descendus dans la rue cette semaine. Le bilan est extrêmement lourd. Selon les ONG sur place, 11 morts, au moins 11 morts, plus de 80 blessés, plus de 200 personnes arrêtées. Et donc, vous y voyez quoi exactement, Yves ?
C'est un prétexte fallacieux encore pour nous dire qu'on a un problème sécuritaire et ils n'organiseront pas les élections dans ce pays. Et surtout qu'on connaît, c'est la même équipe qui est restée depuis 30 ans dans ce pays. Donc, ils auront tous les argumentaires pour repousser l'échéance de la transition, pour ne pas organiser des élections. Ouais. Et curieusement, la communauté internationale, l'Union africaine et tout ça n'en parle pas. Ils s'occupent des élections au Mali, mais ils oublient de dire que le Tchad aussi, ils ont dit qu'il resterait 18 mois. Hein, 18 mois, un an, oui, 18 mois pour organiser les élections, mais apparemment, ils sont partis pour rester très longtemps sur des prétextes très fallacieux, bon, et des prétextes qui ne tiennent pas debout.
Yves, c'est votre interprétation. En tout cas, le Premier ministre de Transition s'est expliqué ce matin sur l'antenne de RFI. Voilà, vous pouvez certainement retrouver ces déclarations sur notre site RFI.fr. Vous parliez justement de ces manifestations à Béché. Bonjour Brahim.
Ah, bonjour Juan.
Vous êtes à N'Djamena, mais vous êtes originaire justement d'Abéché. Vous disiez comprendre, vous, ces manifestations.
Exactement. Permettez-moi, Juan, d'abord de profiter de votre antenne pour rendre condoléances aux familles endeuillées et surtout bon rétablissement aux blessures. Avant de relater tout ce qui se passe, je voulais juste savoir que vous dire sur les chevaliers traditionnels qui se font dans la culture de la nation tchadienne, et ils sont les gardiens de nos cultures. Donc, pour ça, au moins, ça, on sait très bien que pour chaque communauté, il y a un chef, avant même. Et depuis le colonialisme, on les appelle souvent le gong, les bangs, les gardes, les maliques, les rois et tout. Donc, c'est que nous sommes, et c'est là qui est garanti par la Constitution. Et chacun de ces chefs exerce son autorité à la limite de ses prérogatives. Donc, pour la situation d'Abéché, la création de ces chefs de canton n'a aucune assise territoriale, M. Juan.
Donc vous dites que le chef de canton qui a été choisi, désigné, ne représente que lui-même. Il ne représente pas la population de ce canton.
Bien sûr. Écoutez, Juan, dans la question, il y a un article 25 de la loi numéro 10-03-2010,
ouais, sûrement,
dispose que les autorités traditionnelles et coutumières sont choisies parmi les personnes issues de la lignée de la chefferie locale.
Oui.
Donc,
et là, ce n'est pas le cas là, à Béché, pour vous.
Ce n'est pas le cas. Et pire encore, pour une population qui sort pour donner soi-même leur mécontentement, et voilà ce qui se passe, une autorité qui donne aux militaires et tire à bout portant.
Ouais. Je ne sais pas si ordre a été donné aux militaires de tirer à bout portant. Il y a eu des victimes, je le disais tout à l'heure, au moins 11 morts et plus de 80 blessés. Certains de ces blessés d'ailleurs sont blessés grièvement, selon les organisations de défense des droits humains. En tout cas, les autorités, elles sont sur place, quatre ministres sont sur place depuis mercredi soir et le chef de canton a été suspendu.
Exactement, mais Juan, écoutez, la conséquence directe de ces mots, le problème de pourquoi même créer le canton dans la mesure où quelqu'un qui n'a même pas une terre, pour une communauté qui est nomade. Imaginez, si chaque communauté, par exemple, une minorité qui demande un cantonnant, ici, par exemple, à N'Djamena ou bien à Béché, on va se retrouver avec des milliers et des milliards de cantonnants. Mm. Tout est tracé, tout est bien déchiffré. C'est la malgestion de cette administration-là qui est en train de créer tous ces zizanies.
Bon.
Sinon, les communautés entre eux n'ont pas de problème.
Brahim, je vous interromps, je suis désolé, on arrive quasiment à la fin de cette émission. Merci en tout cas de nous avoir appelés, de nous avoir interpellés sur la situation à Béché qu'on suit évidemment depuis le début de la semaine. Je remercie Yves qui nous a interpellés tout à l'heure sur le report du dialogue national. J'avais envie de parler, enfin vous aviez envie de parler, et j'avais envie de vous donner la parole sur la Coupe d'Afrique des Nations puisque les quarts de finale démarrent demain. Certains d'entre vous étaient... sont vent debout contre l'arbitrage et puis certains dénoncent aussi les traitements de faveur dont bénéficieraient les Lions indomptables. Très rapidement, je vais prendre Joseph. Joseph, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour aux auditeurs de RFI.
Vous avez une petite minute, Joseph, parce que vous êtes Camerounais, vous êtes à Yaoundé et vous en avez réellement marre, c'est ce que vous nous avez dit, qu'on critique constamment votre pays, le Cameroun, notamment concernant les tests Covid.
Oui, j'en ai marre, Juan, parce qu'on donne l'impression sur les réseaux sociaux que c'est le Cameroun qui dirigeante les tests Covid. Mais c'est faux, c'est la CAF qui s'occupe des tests Covid. C'est la CAF qui s'en occupe. Beaucoup de pays ont eu des cas de joueurs positifs. Pourquoi est-ce que l'on s'attarde sur le cas du Comore qui a eu les Covid plus? Alors que d'autres pays sont tombés dans ce même travers.
Oui. Ce que les gens trouvent curieux, c'est que toutes les équipes sont frappées par le Covid, sauf l'équipe camerounaise.
Ah, pas que sauf l'équipe camerounaise. Est-ce que vous avez entendu que le Ghana a eu des cas de Covid? Est-ce que vous avez entendu que le Malawi a eu des cas de Covid? Si les gens sont sérieux, se sont cloîtrés pour jouer à la compétition, et d'autres vont se débrouiller dans les rues de Douala ou de Yaoundé, où il y a de l'ambiance.
Vous avez, Joseph, vous avez pu vous exprimer et manifester votre ras-le-bol. On rend l'antenne, c'est la fin de l'émission. Bon week-end et à lundi.
L'appli de Banque Atlantique, Atlantique Mobile, la meilleure expérience de banque à distance, vous a proposé l'émission Appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.